Merci, mon colonel. Nous allons passer tout de suite aux questions et réponses. Vous connaissez la règle, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Et je vous demanderai aussi de bien vouloir fermer vos téléphones ou de les mettre sur silencieux. Nous allons prendre d'abord trois questions à Kinshasa avant d'aller à Goma. Commencez par le fond à droite, s'il vous plaît. Oui, tout à votre gauche, à votre gauche, à votre gauche. Là, à gauche, oui. Bien le micro.
Patrick Mbanga pour l'expression. Alors, je pose mes questions au colonel. Est-ce que vous pouvez nous donner des grandes lignes sur la logistique que utilise le groupe armé IFRC par rapport au M23? Et la deuxième question, est-ce que vous pouvez nous affirmer, comme l'avait posé l'autre fois le mercredi passé, des conseils de Goma, que les M23 sont à 1 km de Goma?
Oui, merci. Donc, pour votre première question, je peux tout simplement y répondre en vous disant que les moyens logistiques utilisés par l'IFRC ne sont pour le moment pas connus. Nous en sommes au niveau de la gestation de ce groupe qui vient juste depuis le 25 janvier. Il est juste de mentionner ou en tout cas de déclarer sa présence et les objectifs qui sont poursuivis. Donc, concernant maintenant la deuxième question, qui est relative à la position des M23 autour de Goma, effectivement, le M23 n'est pas à 20 km comme vous le savez. Le M23 est à peu près à Mouligny, entre 4 et 6 km de Goma. Donc, les positions n'ont pas évolué depuis lors.
Nous prenons une deuxième question. À vous, oui. Je vois un bras là-bas.
Merci pour la parole, je pose la parole, monsieur Tshisekedi, pour le journal Musique Média Noël.
Sur votre parole,
une petite question de curiosité avant de entamer. Je voulais savoir, depuis un certain temps, nous sommes en conférence vidéo avec nos confrères de Goma, que nous avons le privilège de retrouver le suivi de certains confrères. Mais pourquoi je voulais savoir, pourquoi seulement la ville de Goma, depuis que vous avez commencé, pourtant le Congo est vaste, vous vous limitez toujours à Goma, je voulais savoir les raisons qui militent pour que Goma soit en conférence vidéo avec Kinshasa depuis le début de cette année. Monsieur le porte-parole militaire, monsieur le colonel Bass, depuis un certain temps, vous nous parlez trop de la défection des éléments du M23. Je voudrais un peu savoir, le M23 en soi a combien d'éléments, si vous avez une information, mais depuis que cette rébellion a commencé, combien ont fait défection jusqu'à ce jour? Je termine avec une petite question à M. le porte-parole civil, M. Monobaï. En fait, c'est dans le souci de privilégier le dialogue de la guerre que tout le monde condamne entre la République démocratique du Congo et les groupes armés. Quel rôle joue aujourd'hui ou la MONUSCO pourra jouer sur les négociations qui se passent à Kampala entre le gouvernement congolais et le M23? Ou simplement la MONUSCO n'est pas concernée? Merci.
Je prends les deux petites questions, c'est-à-dire la première et la troisième, et je laisse la grande question au colonel. La première question, pourquoi Goma? C'est parce que techniquement c'est possible. La troisième question, est-ce que nous sommes impliqués à Kampala dans les discussions? Non, nous ne sommes pas partis aux discussions. Mon colonel?
Oui, merci. Donc, je serai au regret de ne pouvoir vous donner des statistiques complètes sur le nombre de rébellions enregistrées. Et vous conviendrez avec moi que depuis un certain temps, nous avons vu une recrudescence de reddition des éléments du M23. Ceci est dû à plusieurs facteurs. Comme vous le savez, d'abord, compte tenu de la posture robuste que les forces de la MONUSCO continuent d'afficher dans les zones où on patrouille, mais aussi des activités de sensibilisation qui sont menées aussi bien par d'autres sections substantives de la MONUSCO ou d'autres ONG, mais aussi et surtout parce que le M23 en son sein doit avoir des problèmes internes, des dissensions internes ont été notées depuis un certain temps Et pour ceux qui ont compris que l'avenir n'était pas justement dans la lutte armée, ils se rendent quotidiennement auprès de nos bases opérationnelles où ils savent qu'ils seront sécurisés, où ils savent qu'ils pourront être expédiés en toute sécurité vers Goma. Donc tous ces facteurs ont contribué, si vous voulez, à inciter les éléments du M23 à déposer les armes et à arrêter toute activité négative contre les populations civiles.
Peut-être pour mettre un chiffre, pour demander un chiffre, près de 300 M23 se sont déjà rendus auprès de la MONUSCO. Voilà. Nous prenons une dernière question. Oui, passez le micro.
Merci Alain Ouikani pour la RTNC. Mon colonel, je me recomprends de, sur le plan opérationnel, aujourd'hui, quelques parties sont occupées également dans le territoire de Katanga, dans la province du Katanga, mais également au nord Kivu. Alors, quelle est la différence entre l'opération que vous menez actuellement au nord Kivu et au Katanga? Parce qu'il y a, dans tous les deux cas, il y a des occupations de quelques parties de la République. Merci beaucoup.
Donc je commencerai par le Katanga. Effectivement, nous avons observé une recrudescence de la violence au Katanga, particulièrement au nord Katanga, dans les triangles Mitwaba, Manono et Poto. Et ceci est le fait des groupes armés, notamment les Maïmaï Gédéon et les Maïmaï Katakatanga. Et dans cette partie justement du territoire du Katanga, la MONUSCO n'a pas une présence conséquente aussi bien les FRDC que la PNC. Par conséquent, le modus operandi qui a été retenu, c'est de mener des patrouilles aériennes de longue portée, de mener des patrouilles motorisées aussi de longue portée pour essayer d'aller un peu voir ce qui se passe dans le Katanga. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs une équipe d'évaluation qui est présentement à Manono et qui s'apprête à aller vers la rivière Louvois pour enquêter un peu sur le nombre de corps qui ont été découverts, qui ont été charriés par cette rivière. Mais les opérations au nord Kivu, comme vous le savez, il n'y a plus d'opérations conjointes avec les FRDC. Les opérations que la MONUSCO continue à mener au nord Kivu, ce sont des opérations de sécurisation, aussi bien de l'aéroport que de certaines infrastructures quand même d'importance économique ou sociale, que nous continuons à sécuriser aussi bien les temps de déplacer que les autres. Donc, pour le moment, pas d'opérations conjointes que les opérations unilatérales menées par la MONUSCO dans le cadre de son mandat.
Merci, mon colonel. Nous allons à Goma. Bonjour, Goma. Nous prenons une première question chez vous.
Bonjour. Je suis Rosalie pour la radiographie. Je vais m'adresser au porte-parole militaire. Monsieur le porte-parole, plusieurs sources font état du renforcement des troupes du M23 par des militaires rwandais aux environs de la ville de Goma. Est-ce que la MONUSCO a déjà vérifié ce fait? Et dans tous les cas, qui va faire la MONUSCO? Et ma deuxième question va presque dans le même sens. Les éléments du M23 ne se sont jamais retirés au-delà de 20 km selon les accords du 24 novembre, alors que les FRDC sont à Borémana, qui a une quarantaine de kilomètres de Goma. Maintenant, ils sont en train de renforcer actuellement leur position à Mouigi. Est-ce que la MONUSCO peut conseiller aux FRDC de regagner la ville pour assurer la population au cas où les M23 décident de rentrer à Goma? Merci.
La deuxième question, si vous le permettez. Donc, le M23 est effectivement aux portes de Goma à 4 km. C'est une position qui n'a pas évolué depuis lors. Mais seulement, comme vous le savez aussi, c'est suite à un accord entre les chefs d'État qu'il avait été décidé de déployer dans la ville de Goma un seul bataillon. Initialement, il avait été convenu qu'il y aurait eu une compagnie du M23 à l'aéroport, une compagnie de la force neutre et une compagnie FRDC pour sécuriser la zone, mais qu'il y aurait une zone tampon au-delà de Goma qui devrait être surveillée par la force internationale neutre. Ceci, ce sont les décisions qui ont été arrêtées. Mais comme vous le savez, les FRDC ont déployé un bataillon à Goma qui continue à sécuriser en collaboration avec la PNC qui est revenue à Goma, sécuriser les populations. Et nous avons toujours nos positions et nous continuons à mener nos activités quotidiennes. Maintenant, concernant justement ce déploiement de troupes rwandaises le long de la frontière avec la RDC, effectivement, nous avons eu vent de cette information et immédiatement, nous avons déployé des patrouilles de réaction, forces de réaction rapide sur les deux lieux qui avaient été initialement indiqués par les informations qui nous sont parvenues. Et immédiatement, nous avons aussi informé le général Mohézi, qui est le chef du mécanisme conjoint de vérification à Goma. Et nous sommes rendus sur les lieux et nous avons constaté qu'il n'y avait pas de déploiement de troupes rwandaises, juste à preuve du contraire, mais nous avons trouvé des éléments du M23, une dizaine ou une quinzaine qui étaient sur place. Ensuite, nous avons escorté le mécanisme conjoint de vérification sur les lieux et ils ont eux-mêmes, de visu, constaté qu'il n'y avait pas de troupes rwandaises. Et je pense que c'est bien la Radio Okapi de Goma qui a fait une interview avec le général Mohézi, qui est le chef du GVM, qui a bel et bien déclaré qu'effectivement, ils avaient constaté une légère évolution ou un léger renforcement des troupes du M23, mais qu'ils n'avaient pas vu des troupes rwandaises déployées aussi bien dans le sol congolais que à côté des sites que vous venez de mentionner.
Merci. Une deuxième question de Goma.
Oui, c'est Martial Papi Moukeba de Radio Mouyano et correspondant de Radio Okapi à Beni. Ma question est adressée au porte-parole civil, Manoj Mounoubaï. Monsieur le porte-parole.
S'il vous plaît, vous m'entendez? Résumez votre question en 15 secondes. Résumez tout ce que vous avez dit en 15 secondes. Ou même pas en 10 secondes, s'il vous plaît.
Oui, résumez-vous. Est-ce qu'il faut changer le mandat de la MONUSCO pour assurer la protection des civils dans les territoires de Beni et Lubero et mettre fin à l'activisme des rebelles ougandais AFDC Nalu?
Changer le mandat de la MONUSCO, je ne pense pas, parce qu'en ce moment, nous avons un mandat robuste qui nous permet de nous décharger correctement de notre mandat de protection des civils. Donc, nous n'avons pas besoin, je ne pense pas que ce soit nécessaire de changer le mandat de la MONUSCO. Maintenant, il ne faut pas penser que seule la MONUSCO peut apporter la paix partout en République démocratique du Congo. Et il ne faut pas aussi penser que la paix, c'est seulement, ne peut être réglée que par les armes. La paix, c'est pas seulement une question. La paix, c'est pas seulement une question des armes, mais c'est aussi une question de cœur, une question d'engagement de tous ces Congolais qui sont impliqués dans ces violences. Il faudrait que les Congolais comprennent qu'ils doivent déposer les armes et lorsqu'ils font la paix, lorsqu'ils signent des papiers, qu'ils respectent leurs engagements, mais aussi qu'ils fassent une paix de cœur avec les uns et les autres. Ce n'est que comme ça qu'ils peuvent cohabiter de nouveau ensemble, qu'ils peuvent à nouveau avoir une chance d'apprendre à revivre ensemble. Sans cela, il ne faut qu'utiliser les armes. Je pense qu'on ne ramènera jamais la paix en République démocratique du Congo. Parce que cela veut dire un œil pour un œil, une dent pour une dent, on va s'arrêter quand? Comme dirait l'apôtre de la paix, Martin Luther King, disait, avec une politique de œil pour œil, dent pour dent, on finit dans un pays d'aveugles dédentés. Alors il faut qu'on s'arrête quelque part. Une dernière question de Goma.
Oui, Jérémy Thiambou, RTCT Goma. Quelle est l'opinion de la MONUSCO sur les rapports de Human Rights Watch publiés ce mardi à Goma dénonçant l'exécution sommaire de civils ainsi que des viols faits aux femmes lors de l'entrée dernière des rebelles du M23? La seconde question, est-ce que la MONUSCO continue-t-elle à protéger la population dans les Rutshuru où le M23 fait sa loi? Où la société civile a dénoncé plusieurs cas de violation des droits de l'homme. Le dernier cas est, on a découvert la décès mortelle d'un jeune homme à Rubari. C'est tout comme question.
Concernant Human Rights Watch, oui, Human Rights Watch a fait son rapport et je dirais que globalement, les conclusions de Human Rights Watch ne sont pas tellement différentes des conclusions des enquêtes de la MONUSCO. Mais en autre temps, nous allons publier aussi notre rapport. En ce qui concerne, vous avez parlé de Rutshuru. Mon collègue, vous voulez prendre Rutshuru?
Oui, donc pour pour dans le territoire de Rutshuru où le M23 a un contrôle total sur ce territoire-là. Effectivement, nous continuons à mener notre mandat de protection des populations civiles. Évidemment, ce n'est pas évident, mais nous poursuivons nos activités. Nous avons même renforcé nos effectifs à ce niveau-là. Et c'est ainsi que nous avons déployé des bases opérationnelles nouvelles, aussi bien à Rosario qu'à Mobayo, donc pour essayer de prendre en compte un peu cette situation de sécurité assez précaire dans le retour.
Merci. Nous revenons à Kinshasa. Nous commençons à notre gauche.
J'ai deux petites questions. La première concernant les Touré. Au Cobra Matata serait en pourparlers pour son intégration. Je ne sais pas si la MONUSCO est impliquée dans ces échanges avec Cobra Matata. Et la deuxième question concernant le renforcement des troupes du 23 autour de Goma. Au cas où Goma s'est attaqué, et qu'est-ce va faire la MONUSCO? Est-ce que la MONUSCO va continuer à appuyer les SRDC? Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour sécuriser, renforcer la sécurité de la ville de Goma?
En ce qui concerne les négociations avec le Cobra Matata, la MONUSCO n'y est pas impliquée. C'est une négociation qui se fait directement avec le gouvernement. En ce qui concerne le positionnement de la MONUSCO autour de la ville de Goma, je vais laisser la question au colonel.
Oui, concernant le renforcement des effectifs autour de Goma, nous avons constaté et nous continuons à monitorer le mouvement de M23 depuis bien avant la chute de Goma. Maintenant, quelles sont les dispositions qui ont été prises au niveau de la force? Bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir que la force a déjà prévu aussi bien des plans de contingence que je ne peux pas de toute façon révéler au cours de cette conférence de presse, mais soyez rassurés que dans le cadre de notre mandat, les plans de contingence ont été adoptés et donc nous observons aussi ce qui se fait à Kampala et compte tenu de tout cela, la force de la MONUSCO a pris toutes les dispositions idoines pour remplir au mieux sa mission avec les moyens disponibles qui sont à sa disposition, qui sont mis à sa disposition par le Conseil de sécurité.
Merci. Je vois une dame derrière, n'est-ce pas? Si. Donnons comme la parole à une dame à qui c'est ça.
C'est Mani Kambou, journaliste à la chaîne de télévision Antenne 1. J'ai deux questions à poser. La première au lieutenant-colonel. Permettez-moi quand même de revenir sur la non-signature de l'accord cadre sur la sécurisation des frontières à l'Est à Addis Abeba. Quelles sont les vraies raisons du report de cette signature? Et deuxième question à Yvan Edomo de Ossa. À combien se chiffre le plan d'action humanitaire 2013? Parce que vous n'avez donné que les chiffres de 2012. Merci.
Merci, mais je pense que votre question est beaucoup plus d'ordre politique. Je laisserai le soin à M. Ménégal d'en parler.
Lorsque vous dites quelles sont les vraies raisons, vous avez l'air d'insinuer quelque part qu'il y a des choses qui sont cachées. Mais prenez quand même ce qu'on vous dit pour ce qu'elle vaut. Il y a eu des discussions, les parties concernées n'étaient pas tombées d'accord sur tout le contenu du texte. Les discussions continuent et je pense que New York a annoncé hier qu'avant la fin de ce mois, cet accord sera signé. Donc, ça n'a pas été annulé, ça a simplement été repoussé, mais cet accord sera signé. Yvon?
Le montant du plan d'action pour l'année 2013 se chiffre à 890 millions de dollars, ce qui représente à peu près 13% d'augmentation par rapport à l'année 2012.
Nous prenons une dernière session à Kinshasa avant d'aller sur Goma, ACP. Levez la main qu'on vous voit.
Merci, Télémaï de l'Agence congolaise de presse. Une préoccupation pour Mme Machar. C'est à propos de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Le PNUD apporte sa contribution pour ce travail d'identification des enfants. De même que le PNUD apporte également sa contribution pour le problème de décentralisation. Mais pourquoi
le PNUD n'aide pas jusqu'à présent le gouvernement à connaître le nombre de populations dans le pays. C'est-à-dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en RDC, on ne connaît pas le nombre de populations. Pourquoi le PNUD, qui est ici depuis très longtemps, ne parvient pas à aider le gouvernement à résoudre ce problème d'identification des populations? Merci.
Alors, je vous remercie pour cette question qui va amener une clarification. En ce qui concerne l'enregistrement des naissances, c'est l'UNICEF qui apporte un soutien au gouvernement congolais. En ce qui concerne la décentralisation, effectivement, le PNUD, mais aussi la Banque mondiale, apporte un soutien depuis 2008-2009 pour la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local. Et quant à la question du recensement, ça relève d'une autre agence qui est l'UNFPA. Et dans l'UNDAF, le document cadre d'assistance des Nations Unies pour la période 2013-2017, la question du recensement est à l'ordre du jour, figure parmi les priorités établies à la fois par le système des Nations Unies et le gouvernement congolais. Les recherches de financement sont en cours parce que c'est une opération qui est longue et onéreuse. Voilà, je vous remercie.
Merci. Nous repartons sur Goma. Goma?
Oui, c'est M. Kito Pati. Je pose la question à madame. Il y a un challenge qui est lancé au niveau des camps de déplacés. Est-ce qu'il y aurait des moyens suffisants pour venir en aide au moins à ce milieu de déplacés qui aujourd'hui manquent le vivre et le non-vivre dans les camps de déplacés de Mugunga 1, 2 et 3?
Nous allons demander à notre collègue humanitaire Yvon Edounou de vous répondre.
Je ne sais pas totalement bien
la question, c'est de savoir est-ce qu'on va renforcer, on va augmenter l'assistance aux camps de déplacés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu d'assistance.
Bien, j'annonçais tout à l'heure le lancement du plan d'action 2013. Ça s'inscrit totalement dans cette perspective d'apporter de l'aide aux populations. Mais évidemment, bien au-delà du plan d'action, depuis les événements de Goma et depuis qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont déplacées à Goma, l'aide humanitaire est effective à travers les différentes agences des Nations Unies, à travers des ONG nationales et internationales. Donc l'aide qu'on apporte est permanente et évidemment on peut augmenter l'augmentation de l'aide qu'on apporte aux populations dépend éventuellement des observations que nous faisons sur le terrain, des différentes missions pour vraiment estimer les besoins de ces personnes.
Merci. Nous prenons encore une question de Goma.
Martin Sikouzot de la radio Comico FM. Ma question s'adresse au colonel Félix Prosper Abbas. Quel est l'apport des forces de la MONUSCO en rapport avec les propos du général ougandais, le général Munguez, le chargé des mécanismes conjoints de vérification de la CIG, qui nie l'existence des troupes rwandaises au sol de la République démocratique du Congo, précisément aux alentours de Goma?
Je me permettrai de dire que je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus parce que je pense que le général Godefroy Mouhizi a donné une conférence là-bas à Goma par rapport à cette situation. Effectivement, M. Omar Kavota, vice-président de la société civile, a sonné l'alarme en disant qu'il y avait effectivement un déploiement de troupes rwandaises aussi bien dans Goma vers les cimetières et Jolibois et aussi le long de la frontière avec la RDC. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons déployé des troupes là-bas, nous n'avons pas observé une quelconque présence des troupes rwandaises et nous avons escorté le mécanisme conjoint de vérification qui s'y est rendu aussi bien dans les deux sites qui ont été mentionnés et nous n'avons pas remarqué de présence de troupes rwandaises. Donc, mais nous continuons à suivre cette situation-là, à l'observer de très près pour éventuellement réagir en temps voulu et avec les moyens adéquats.
Merci. Nous revenons à Kinshasa. Amenez le micro sur ma droite, M. Omba.
Oui, Albert Oman, America TV. Je voudrais juste m'adresser au colonel Bass pour savoir un peu la situation exacte à Wamba, parce qu'il paraît que les atrocités ont repris hier et tout le monde a quitté Wamba pour aller dans la forêt à cause des actions et de l'attaque de rebelles de Mordant. Quelle est la situation actuellement à Wamba?
Comme vous l'avez dit, à Wamba, effectivement, il y a eu une attaque de Maïmaï Simba, de Paul Sadala Morgan, et sur des villages, ils ont même brûlé quelques maisons et que les gens se sont déplacés. Mais si vous vous rappelez, il y a eu une attaque il y a quelques semaines, justement, dans cette zone, et nous avions apporté notre concours au troupe FRDC qui avait pu positivement repousser cette attaque de Maïmaï Simba. Et suite à cela, nous avons déployé une base opérationnelle à Mambasa pour prendre en compte cette situation sécuritaire. Et depuis quelques jours, nous avons d'ailleurs shifté, basculé cette base opérationnelle de Mambasa vers Zongoluka pour effectivement essayer de prendre cette situation en compte. Donc, il faut aussi observer qu'il n'y a pas de présence suffisante FRDC dans ces zones-là. Et les élongations sont quand même assez importantes pour joindre les deux ces localités-là. Donc, c'est ce que je peux vous dire.
À propos de rapprochement des rebelles du M23 au périmètre immédiat de Goma, en vue de reprendre cette ville, l'histoire permettait quand même qu'on revienne à l'histoire. L'histoire nous renseigne qu'en 1990, lorsque l'Irak a envahi le Koweït, le 15 janvier, le 16 janvier 1991, les États-Unis d'Amérique ont répliqué avec des F-16 et des B-52. Il en est de même pour le Mali, aussitôt attaqué, l'armée française est entrée en danse. Mais pourquoi ne pas agir de la même pour la RDC? Est-ce que la RDC n'intéresse pas, ne vous intéresse pas, vous, communauté internationale? Au lieu d'attendre les conclusions de pourparlers de Kampala qui tardent toujours à aboutir. Merci.
Bon, je crois que dans la question que vous avez posée, les seules choses qui sont comparables, c'est que nous sommes en état de guerre. À part ça, les situations sont complètement différentes. Maintenant, dire que la communauté internationale ne s'intéresse pas à la République démocratique du Congo, je pense que c'est complètement faux. L'engagement de la communauté internationale est resté intact depuis 1999 jusqu'à ce jour. Et toutes les tentatives de solutions qui se font en République démocratique du Congo, pour la République démocratique du Congo par-ci par-là, toutes ces tentatives ont toujours eu un soutien de la communauté internationale. Mais encore une fois, je reviens à ce principe de base. Ce n'est pas la communauté internationale qui va régler les problèmes de la République démocratique du Congo. La communauté internationale ne peut que essayer de créer les conditions pour permettre aux Congolais de régler leurs propres problèmes. Et il faut que les Congolais acceptent de déposer les armes et de s'engager pour la paix, pas seulement en déposant les armes, mais lorsqu'ils font la paix, qu'ils s'engagent vraiment dans la paix. Sans cela, la communauté internationale peut rester ici 1000 ans, la paix ne reviendra jamais en République démocratique du Congo. Nous allons prendre encore une dernière question de Goma.
Okay. Je suis Olivier Monticia, de l'initiative civile. Je voulais savoir, vous avez parlé de plus de 300 éléments M23 qui se sont rendus et chez vous à la Monisco, dans vos bases ici dans le Nord Kivu. Ils sont où? Et c'est quoi en fait le processus? Ils vont intégrer l'armée nationale? Qu'est-ce que vous dites avec le gouvernement congolais par rapport à ces réductions? Merci.
Je pense que j'avais posé là une bonne question. Parce que vous pensez que tout doit se faire sur la place publique. Mais tout ne se fait pas sur la place publique. Et encore une fois, je n'ai pas dit plus de 300 éléments M23. J'ai dit près.
Vous voyez déjà, ça fait une différence. Quand vous dites plus de 300 et moi je dis près de 300, ça fait une différence. Vous m'avez déjà très mal coté en 5 minutes. Oui, ces personnes se rendent auprès de nos camps qui sont pris en charge par le DDR. Et ceux qui doivent rentrer rentrent, ceux qui doivent rester restent, parce que le retour est toujours volontaire. Mais nous avons catalogué toutes ces personnes qui se sont rendues auprès de nos DDR, leur liste existe. Ceux qui sont devenus, c'est le DDR qui peut vous le dire, vous dire exactement combien sont rendus, combien sont restés, combien sont encore dans le processus. Mais effectivement, près de 300 éléments M23 se sont rendus auprès de nos bases. Nous revenons à Kinshasa, nous prenons deux dernières questions sur la gauche. Oui, tout à fait au fond, tout à fait au fond. Ça fait longtemps qu'il lève la main là.
Je suis un fatigué, c'est Alain Mouzi pour Sans Valente Télévision. Monsieur Madnot Monobaye, non, plutôt à Monsieur Félix Fossier-Bass, combien de groupes armés sont actifs en République démocratique du Congo? Et à Monsieur Madnot Monobaye, nous avions appris deux semaines, il y a un groupe armé dénommé le M26 qui serait né dans le Massissi. Est-ce que vous avez les dernières nouvelles de ce groupe? Comment se comporte-t-il?
Ok, je passe les deux questions au colonel Bass.
Je vais commencer par la deuxième question qui est relative au M26. Effectivement, le M26 a fait son apparition et comme vous le savez, c'est un groupe constitué en majorité de jeunes Hutus qui ont décidé de se constituer en milice et de combattre les forces gouvernementales au même titre que les autres groupes armés. Le M26 est apparu un moment et puis depuis lors, nous n'avons plus de nouvelles du M26. Maintenant, ce qui me renvoie à la deuxième question, parce que c'est lié de toutes les façons, combien de groupes armés existent au Congo? Je pourrais dire que ça c'est une question à 1000 balles, parce que tous les jours ou chaque semaine que nous venons vous rencontrer ici pour échanger, nous vous annonçons la naissance d'un groupe armé. Entre les Maïmaï, on s'y perd, mais je peux vous dire que rien que dans la province du Nord Kivu, nous avons à peu près 35 groupes armés, et ce n'est pas fini, parce que tous les jours, on en crée. Les statistiques réelles ne sont pas à ma position, mais je pense que vous avez là suggéré une idée remarquable, parce que c'est vraiment un exercice terrible pour celui qui va se lancer dans ça. Par contre, le Sud Kivu, le Katanga, tous les jours, vraiment, il y a des groupes qui naissent, qui disparaissent, qui se coalisent, etc. Mais nous, en ce qui nous concerne au niveau de la MONUSCO, nous prenons en compte toute apparition de nouveaux groupes et nous continuons à les suivre de très près pour savoir ce qu'ils font et nous prenons en compte les menaces qui sont mises sur les populations civiles et nous préparons la riposte en conséquence. C'est ce que je peux dire concernant la multitude des groupes armés qui écument le Congo en général.
Ok, une dernière question sur la gauche. Oui, Monsieur Tshibango. Pasteur.
Merci Monsieur Mounoubaï pour la parole. Pasteur Tshibango pour le scribe. Alors Monsieur Mounoubaï, vous venez de dire que la communauté internationale n'a pas abandonné la RDC, mais le souhait est que les Congolais puissent déposer les armes. Croyez-vous que ce sont vraiment les Congolais qui s'arment ou des étrangers qui portent des armes contre le Congo?
Je ne sais vraiment pas comment interpréter cette question, parce que, à ce que je sache, tous ces groupes sont animés par des personnes qui se présentent comme des Congolais. Donc, si vous dites qu'ils ne sont pas des Congolais, alors ils sont quoi? Tous ces groupes Maïmaï dont on vient de parler, les M26 dont on vient de parler, tout ça, ce sont des Congolais, ça. Vous connaissez des groupes étrangers qui... qui opère la République démocratique du Congo.
Mais on voit les FDLR, on voit la APR rwandaise, on voit les militaires qui viennent du Rwanda, des Émirats, qui ne sont pas des Congolais.
Mais ils sont identifiés en tant que tels. Quand on parle de LRA, on dit toujours que c'est un groupe d'origine ougandaise. Oui. Quand on parle de FDLR, leur nom le dit, Force démocratique et libération du Rwanda. On ne connaît pas les groupes étrangers, mais le reste,
ce sont des Congolais. Nous, Congolais, nous voulons aujourd'hui que la communauté internationale puisse nous aider à porter des armes contre ces rebelles-là. Voilà.
Voilà, j'espère que la réaction de la salle a répondu à votre question. Merci beaucoup, merci d'être venu à notre consulat de ce jour. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.